France Culture.
Les informations sont présentées par Julie Paco. Bonjour Julie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Ils promettent déjà des représailles après l'imposition de droits de douane actée hier par Donald Trump. Le Canada et le Mexique vont répliquer en imposant à leur tour des droits de douane sur les produits américains, tandis que la Chine se tourne vers l'Organisation mondiale du commerce. Les raids se poursuivent en Cisjordanie occupée, où l'armée israélienne dit avoir éliminé plusieurs terroristes, parmi lesquels des prisonniers palestiniens récemment libérés. Une semaine après la prise de Goma, en République démocratique du Congo, les rebelles du M23 et les troupes rwandaises continuent de progresser. Une avancée fulgurante qui fait craindre une propagation du conflit dans la région. On en parle avec notre invité, Regan Miviri, analyste des conflits à l'Institut Congolais et Buteli. Un pays comme le nôtre ne peut pas rester sans budget. Les mots du Premier ministre François Bayrou qui confirme un recours au 49-3 demain à l'Assemblée nationale, engageant ainsi la responsabilité de son gouvernement et appelant les socialistes à la responsabilité. La guerre commerciale promise par Donald Trump est bel et bien lancée. Le président américain a signé un premier décret hier pour imposer à partir de mardi prochain 25% de droits de douane sur les produits venant du Canada et du Mexique et 10% supplémentaires à ceux déjà existants sur les produits chinois. Les trois principaux partenaires commerciaux des États-Unis sont accusés par le locataire de la Maison-Blanche de ne pas suffisamment lutter contre le trafic de fentanyl, un puissant opioïde, et les arrivées de migrants illégaux. Bonjour Anne-Laure Jumet.
Bonjour.
De la rédaction internationale. Donald Trump passe donc outre les accords de libre-échange avec ses voisins et invoque une loi américaine datant de 1977 qui permet de réglementer le commerce en cas de situation d'urgence nationale. Mais ses partenaires, Anne-Laure, promettent déjà de répliquer.
Oui, et la réponse la plus concrète est venue du Canada. Dès la confirmation américaine, Justin Trudeau, le premier ministre démissionnaire, a tenu une conférence de presse pour annoncer des mesures de rétorsion commerciale.
J'annonce la réplique du Canada. Des tarifs douaniers de 25% sur 155 milliards de dollars de marchandises américaines.
Et dégrainer une longue liste de produits, de l'alcool au parfum, en passant par les vêtements et les meubles. Du côté du Mexique, la présidente Claudia Sheinbaum annonce aussi des droits de douane sur les produits américains, mais là, pas de détails. Idem pour la Chine qui annonce une riposte, sans en dire plus. Pékin qui va par ailleurs porter plainte contre Washington devant l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce.
Alors que cherche la Chine avec cette plainte ?
Eh bien montrer qu'elle joue le jeu des règles du commerce international, ce qui ne l'empêche pas d'être protectionniste quand il s'agit de défendre ses intérêts. Sur le fond, en tout cas, cette plainte est fondée. Un membre de l'OMC ne peut augmenter de manière unilatérale des droits de douane et la loi qu'invoque Trump pour justifier ses mesures ne suffira pas. Mais à l'OMC, les procédures sont longues. La réponse la plus dissuasive reste donc les mesures de rétorsion commerciale. Reste que le risque pour l'économie est loin d'être neutre. La directrice générale de l'OMC s'en inquiétait d'ailleurs tout récemment au Forum économique de Davos. Rendre coup sur les taxes douanières serait catastrophique, disait-elle. Tout le monde va payer, tout le monde. Et les pays pauvres paieront le plus.
Explication signée Anne-Laure Jumet. Au lendemain d'un nouvel échange d'otages israéliens contre des détenus palestiniens, le quatrième depuis le 19 janvier et le début de la trêve entre Israël et le Hamas, l'armée israélienne mène de nouveaux raids en Cisjordanie occupée. Raids qui ont fait plusieurs morts d'après les autorités palestiniennes. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Julie, bonjour à tous.
Correspondant de RFI à Jérusalem pour France Culture, Israël poursuit donc son opération militaire baptisée Mur de Fer, lancée le 21 janvier contre les combattants du Hamas et du djihad islamique en Cisjordanie occupée. Une opération très politique, qualifiée de très politique par les détracteurs de Benjamin Netanyahou et qui viserait à satisfaire les demandes de l'extrême droite et de son gouvernement.
Oui, l'armée israélienne annonce avoir étendu ses raids sur la Cisjordanie, notamment dans les secteurs de Jenin et de Kabatieh, dans le nord du territoire palestinien. La nuit dernière, ce sont plusieurs frappes aériennes qui ont été menées. Et selon un communiqué militaire israélien, trois cellules terroristes ont été éliminées en l'espace de quelques heures, alors qu'elles s'apprêtaient à passer à l'action. Des troupes opèrent également dans le village de Tamoun, au sud de Jenin, où des caches d'armes aurait été mise au jour. Pas de chiffres exacts à ce stade sur le nombre de victimes, mais de l'aveu de l'armée israélienne elle-même, Abed El-Hadi Kamil a été tué lors de l'opération. Alors Julie, c'est un fait intéressant et qui fait le jeu de l'extrême droite. El-Hadi Kamil avait été relâché par Israël en novembre 2023 dans le cadre du premier échange prisonnier-otage.
Et c'est bien la grande crainte des Israéliens, Michel, les prisonniers libérés mais qui récidivent.
C'est la principale préoccupation en Israël qui pourrait empêcher la mise en œuvre de la seconde phase de l'accord passé avec le Hamas et la grande menace de l'extrême droite. Tous les moyens sont bons, y compris une petite guerre psychologique. Les prisonniers libérés depuis le 19 janvier sont munis d'un bracelet fourni par l'administration pénitentiaire israélienne avec ce verset des psaumes en hébreu et en arabe. « Le peuple éternel n'oublie pas, je poursuivrai mes ennemis et les rattraperai ». C'est une pratique dont l'efficacité reste à prouver et qui a été critiquée par la Croix-Rouge internationale. D'ailleurs, le premier geste des prisonniers dès leur libération est systématiquement d'arracher ce bracelet.
Michel Paul en direct de Jérusalem. J'ajoute par ailleurs que la Turquie se dit prête à accueillir certains Palestiniens libérés par Israël, affirme ce midi le chef de la diplomatie turque. C'est un géant du textile qui s'écroule en Italie. La marque de vêtements Benetton, connue notamment pour ses pulls colorés, a vu ses ventes diminuer de moitié depuis 2012. La faute à la nouvelle direction qui prend donc le taureau par les cornes. D'ici à la fin de l'année, plus de 400 magasins doivent fermer dans le monde sur les 3500 que compte la marque, dont 200 boutiques en Italie. Objectif, Bruno De Vic, retrouver l'équilibre en 2026.
Les magasins en franchise sont visés. Ils ont accumulé des dettes vis-à-vis de la maison mère. La syndicaliste Mariana Flauto participe aux négociations.
À l'époque de Luciano Benetton, qui a quitté la direction il y a quelques mois, la gestion était paternaliste. Même si les boutiques ne payaient pas les factures, elles recevaient la marchandise. Le nouvel administrateur a mis fin à cette pratique. Et beaucoup de franchisés se sont retrouvés en difficulté.
250 salariés au moins sont menacés en Italie. Est aussi en projet la vente d'usines de la marque en Tunisie. Plus de place, donc, doit être faite aux sous-traitants. Benetton ne s'est jamais remise de l'arrivée de la fast fashion, moindre qualité mais moins chère, et a perdu son identité. Cinzia Capalbo dirige le master en management de la mode à l'Université de Rome.
Ils n'ont pas fait de choix. Ils auraient pu se positionner sur une gamme plus basse, comme la fast fashion, ou alors rester plus haut dans la gamme et surfer sur le discours de la mode éco-responsable. Tout le contraire de la fast fashion. Mais ils n'ont pas tranché.
La mode représente 1% de l'activité de la holding qui chapeaute aujourd'hui Benetton.
Les ministres des Affaires étrangères du G7 condamnent l'offensive du M23. Dans un communiqué commun, les ministres des 7 pays les plus riches du globe appellent le groupe armé et les forces rwandaises à mettre fin à cette offensive, qui constitue, disent-ils, un mépris flagrant de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Une semaine donc après la prise de Goma, capitale du Nord Kivu, dans l'Est de la RDC. Bonjour Regan Miviri.
Bonjour madame.
Vous êtes chercheur à l'Institut congolais Ebuteli, institut de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Une semaine donc après le début de cette offensive éclair qui a fait au moins 700 morts d'après l'ONU. Quelle est la situation à Goma, notamment sur le plan humanitaire ?
Sur le plan humanitaire, la situation reste quand même préoccupante. De plus en plus de populations n'ont pas accès à l'eau, l'électricité.
Nous avons perdu la connexion.
Si l'on aussi a trouvé, donc, la ville, mais aussi il y a eu des personnes qui se sont déplacées dans les pays limitrophes, mais aussi dans des villes limitrophes qui restent aussi sous la menace des combats du M23.
Alors, Regan Miviri, les rebelles du M23 continuent de progresser, en effet, dans la province voisine du Sud Kivu, et affirment avoir pour objectif la capitale Kinshasa. Les forces armées de la RDC, soutenues par l'armée burundaise, ne parviennent pas à enrayer leur avancée.
Oui, c'est... On voit sur le terrain que le rapport de fait l'avantage du M23 et surtout à l'armée rwandaise, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la présence d'une armée étrangère sur le territoire congolais avec beaucoup plus de militaires, mais aussi avec des moyens technologiques très, très avancés. Et bien sûr, il y a aussi une très grande désorganisation du côté de la coalition gouvernementale, vu au travers de ces 3 jours des combats dans la ville de Goma, où le commandement a laissé des militaires sur le terrain combattre sans des ordres clairs, en tout cas, et c'est ce qui a amené d'ailleurs à cette chute, mais surtout, c'est de la ville, on fait plusieurs morts parmi les civils. Ça, c'est le risque, en fait, d'avoir ces combats à l'intérieur et que sans qu'il y ait une coordination quelconque, mais aussi sans qu'il y ait, en fait, le respect tout simplement international humanitaire.
Est-ce qu'il faut craindre un embrasement régional ? Vendredi, l'armée ougandaise a par exemple annoncé qu'elle allait renforcer ses défenses dans l'est de la RDC.
Oui, c'est une crainte qu'on a ici en RDC. Voilà, déjà, il y a deux armées qui s'opposent à l'intérieur du territoire congolais. On parle du Rwanda et du Burundi. Il y a l'Ouganda qui est déjà sur le terrain, mais dans un contexte tout autre, parce qu'ils sont là pour combattre normalement les ADF, les terroristes ADF. Mais là, ils ont pris position pour une posture beaucoup plus défensive, sans être clair. On ne sait pas qui est l'ennemi. Est-ce qu'au-delà de l'ADF, ils vont aussi s'attaquer à la coalition gouvernementale ou aux autres groupes armés? Ce n'est pas encore clair, mais ça veut tout simplement dire qu'il y a des camps qui sont formés dans la région. Et c'est très inquiétant. Et en tout cas, les vieux souvenirs de 30 ans passés.
Merci beaucoup Regan Miviri en direct de Kinshasa, pardon pour cette liaison un petit peu compliquée. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Merci également à Loïse Guérin pour la préparation de cet entretien. Il y aura bien un recours au 49-3 pour faire adopter le budget à l'Assemblée nationale demain. François Bayrou le confirme dans une interview à la Tribune dimanche. Un pays comme le nôtre ne peut pas rester sans budget, assume le Premier ministre, qui engagera donc la responsabilité de son gouvernement, ouvrant ainsi la porte à un risque de censure. La France insoumise ayant déjà annoncé le dépôt d'une motion de censure votée par les écologistes et les communistes. Bonjour Nicolas Ballu.
Bonjour.
La balle est donc dans le camp des socialistes. Que feront leurs 66 députés? Ils doivent s'accorder demain.
Oui, ou au moins d'ici mercredi, deux jours après le dépôt de la motion de censure qui sera donc inévitablement déposée, après l'utilisation inévitable donc du 49-3 par le gouvernement. L'heure de vérité arrive pour les socialistes qui ont discuté pendant plusieurs semaines avec François Bayrou avant de couper court après l'épisode du sentiment de submersion, ce mot utilisé par le Premier ministre parlant d'immigration. Mais au final, une CMP, une commission mixte paritaire, conclusive des concessions gouvernementales faites au PS. Le Parti socialiste, qui a bien fait savoir qu'il voterait contre le budget, il est dans l'opposition. Mais quant à la censure, il y a encore un vrai dilemme, affirme ce matin le député socialiste Arthur Delaporte.
Oui, il faut un budget pour que les collectivités locales puissent continuer à fonctionner. Oui, il faut un budget pour que les associations puissent continuer à recevoir différentes dotations. Bref, on a besoin d'un budget. Mais pour autant, ce budget injuste qui ne nous convient pas, le laisse-t-on passer pour essayer de le corriger plus tard, éventuellement par un autre gouvernement? Ça, c'est aussi des questions qui peuvent se poser. Aujourd'hui, c'est à l'étude.
D'autant que François Bayrou n'a fait aucun mea culpa, selon le député. Le Premier ministre lui prévient dans la Tribune ce matin, une censure serait rejetée avec colère par les Français. Ces deux partis, le RN et le PS, le savent aussi bien que moi. Fin de citation. Comprenez, les partis doivent prendre leurs responsabilités, quitte à avaler la couleuvre du 49-3 au nom de la stabilité institutionnelle et de mettre en sourdine les accusations de déni de démocratie qui accompagnent son utilisation. Le ton de Catherine Vautrin, la ministre du Travail, dans Le Parisien ce matin, est tout autre, mais l'objectif elle-même, elle vante l'esprit constructif des discussions autour du budget et cette ancienne LR a même cette petite phrase « Je rends hommage au PS ».
Nicolas Ballu, 49-3 sur le PLF donc dès demain et 49-3 aussi sur le PLF. FSS, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, annonce d'ores et déjà le Premier ministre qui doit être examiné dans la foulée la semaine prochaine par les députés. Loin des tractations budgétaires, le chef de l'État est lui à Colmar aujourd'hui pour une séquence commémoration, celle des 80 ans de la libération de la ville. Le 2 février 1945, les chars blindés français entraient dans la ville et mettaient fin à l'occupation allemande dans cette poche de Colmar au terme de la dernière grande bataille de la Seconde Guerre mondiale. La météo avec un dimanche ensoleillé sur la plupart des régions cet après-midi. Les grisailles devraient cependant persister du Lyonnais au Val-de-Saône et du Poitou à la Bretagne. Les températures affichent 5 à 9 degrés sur la moitié nord et les Alpes, entre 10 et 13 sur le sud-ouest et 12 à 17 degrés sont attendus sur les régions méditerranéennes.